Et on se retrouve au Festival international du film d'histoire de Pessac. Nous sommes en compagnie de Cyril Desprats. Comment allez-vous ?
Bonjour, très bien, merci beaucoup, merci pour l'accueil.
Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être au Festival du film d'histoire de Pessac déjà ?
Pour nous, quand on fait un film, c'est toujours très compliqué. Il faut de l'argent, il faut faire des recherches, c'est beaucoup de travail. Donc évidemment, d'être invité dans un festival comme celui-là, qui est spécialisé sur des questions d'histoire, pour nous, c'est un bonheur, c'est un honneur, c'est un plaisir. C'est un plaisir de projeter ce film, c'est un plaisir aussi de pouvoir en parler avec les personnes qui vont le regarder.
Alors si on vous retrouve ici, c'est dans le cadre de votre film « À mort la sorcière », donc un film qui traite des procès d'hérésie contre les sorcières en Suisse au XVe siècle jusqu'au XVIe, XVIIe siècle. Pourquoi tout d'abord vous avez voulu traiter ce sujet ?
On l'a traité pour une émission de télévision. C'était l'époque où on se mettait à reparler des sorcières. Il y avait le livre de Mona Chollet, La puissance invaincue des femmes. Au fond, le thème des sorcières était dans l'air. Et en faisant ce petit sujet d'une dizaine de minutes, on s'est rendu compte que la chasse aux sorcières avait été en Suisse une des plus féroces d'Europe, et notamment dans la Suisse romande, c'est la partie francophone. On a brûlé 50 fois plus de sorcières en Suisse qu'en France, 100 fois plus qu'en Italie, et ça par une justice séculière, laïque, et sous un régime protestant. Donc on était très loin de l'image qu'on avait de la chasse aux sorcières, Torquemada, l'Inquisition. Ça c'était la première chose qu'on a découverte. La deuxième chose qu'on a découverte, c'est que la chasse aux sorcières a commencé en Suisse, enfin un des lieux où la chasse aux sorcières a commencé en Europe, c'était en Suisse. Et la dernière sorcière d'Europe est exécutée en Suisse aussi. Et la troisième chose, c'est que cette histoire incroyable quand même, qui touche notre identité, qui touche notre histoire, n'avait jamais été racontée, ni dans des livres, ni a fortiori par des films ou des émissions. Donc pour nous, ça paraissait évident qu'il fallait raconter cette histoire, qui est une longue histoire sur 250 ans, ce qui explique aussi pourquoi il y a des travaux historiques qui ont été faits, il y a des archives, le travail continue aussi, mais au fond, aucun historien n'avait embrassé ces 250 ans d'histoire.
Justement, vous le dites, vous avez eu recours à l'aide de spécialistes qui sont des historiens spécialistes du sujet. Et tout ce qui nous reste en fait de ces procès, ce sont les comptes rendus faits par les notaires, c'est ça ? Les notaires ou les greffiers de...
Les greffiers des tribunaux, oui. Il n'y a pas de... Absolument. Il y a un texte qui est un texte court du milieu du 15e siècle, qui est une sorte de reportage, on pourrait dire, qui est fait par un monsieur qui s'appelle Hans Freund et qui raconte qu'en Valais, on a découvert des gens qui font des maléfices, qui rencontrent le diable. Ils sont 700, donc c'était énorme pour l'époque. Mais ça, c'est un des seuls récits qu'on a. Et autrement, l'essentiel des sources, effectivement, ce sont les aveux des sorcières et des sorciers, parce qu'il y a eu beaucoup d'hommes aussi, donc qui sont torturés et qui avouent des méfaits qu'ils auraient commis. Parce qu'une des choses très intéressantes de la chasse aux sorcières, c'est qu'on a affaire à un crime totalement imaginaire. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il n'y a pas eu de sabbat, on accusait les sorcières et les sorciers d'avoir tué, voire mangé leurs propres enfants. Tout ça, c'est un crime totalement imaginaire. Et donc effectivement, la seule source qu'on a, ce sont ces aveux.
Oui, parce que c'est vraiment très particulier. Le système judiciaire de l'époque, et ils ont même créé des lois au Valais en 1428, c'était très facile d'ouvrir un procès pour sorcellerie parce qu'il suffisait de la délation en fait. Accuser quelqu'un, il était présumé coupable et ensuite tout s'enchaînait. La torture permettait d'extraire les aveux des accusés qui étaient forcément coupables et ensuite on pouvait qu'aboutir à la peine de mort.
Oui, deux des aspects importants des procès de sorcellerie. Le premier, c'est qu'effectivement la rumeur a de l'importance. C'est-à-dire que dans un village, par exemple, tout d'un coup il y a des rumeurs qui traînent comme quoi telle ou telle personne commettrait des maléfices. Ça permet d'expliquer les malheurs naturels. Et donc il y a un véritable, quand la chasse aux sorcières commence, il y a un véritable appel à la délation qui est fait. Et donc, parfois ça pouvait se retourner contre les gens qui accusaient, mais il y a un véritable appel à la délation. La deuxième caractéristique, c'est l'aveu. C'est-à-dire que c'est un système judiciaire qui est basé sur l'aveu. Il faut que la personne avoue son crime. Les gens sont systématiquement torturés. Il y a des gens qui résistent à la torture. On ne sait pas très bien comment, parce que c'était des tortures qui étaient extrêmement violentes, mais en même temps très codifiées. Et quelqu'un qui traversait, si je peux utiliser cette expression, l'épreuve de la torture et qui n'avouait pas qu'il était sorcier, ce qui était toujours le cas, mais enfin voilà, il résistait, en fait, il était immédiatement libéré. il n'était pas considéré comme sorcier. N'est sorcier ou sorcière que quelqu'un qui avoue qu'il l'est. Et c'est comme ça d'ailleurs que les procès en sorcellerie stop, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui effectivement sont arrêtés, sont torturés, n'avouent pas qu'ils sont sorciers, donc ils sont libérés et vont se plaindre ensuite, vont porter plainte après contre l'autorité politique en disant « j'ai été accusé à tort » et l'autorité politique se dit « mais qu'est-ce qui se passe ? On accuse des gens à tort » et progressivement, c'est ce qui explique la fin de la chasse aux sorcières, progressivement on va légiférer sur la torture, on va la réduire, la restreindre et s'il n'y a plus de torture, il n'y a plus de sorciers. Comme le dit Voltaire, les sorciers ont cessé d'exister quand on a cessé de les brûler.
Pour rebondir par rapport à ce que tu dis, et toujours pour rester dans le cadre de cette procédure pénale qui est un peu particulière à l'époque, comment on fait en tant que réalisateur quand on fait des recherches sur le sujet, quand on voit un peu les sources de l'époque qui, comme on le répète, hein, c'est que ces traces écrites du procès pour démêler le vrai du faux, parce qu'on voit qu'il y a tout pour mystifier l'accusé, pour le diaboliser, et des fois on se retrouve face à des informations totalement farfelues. Comment on fait pour voir ce qui part du vrai, ce qui est totalement faux, comment on fait pour s'y retrouver ?
C'est une question assez difficile parce qu'on ne sait pas toujours. Il y a des choses qu'on sait, c'est-à-dire que quelqu'un qui avoue qu'il s'est transporté de manière magique sur un bâton brûlé, on ne parlait pas encore de balai à l'époque, pour aller assister à un sabbat où il baise le cul du diable, quand il avoue ça, on sait que ça fait partie de ce crime imaginaire. Après, ce qui est intéressant, c'est que pour alimenter cet imaginaire, la justice, au fond, c'est des questions oui-non. Donc, est-ce que vous êtes allé au sabbat ? Oui-non. On torturait les gens jusqu'à ce qu'ils disent oui. Est-ce que vous avez rencontré le diable ? Oui, non. Il n'y avait pas d'enquête parce qu'il n'y avait pas de flagrant délit. Il n'y a aucune preuve réelle. Tout est basé sur l'aveu. Donc il y a cette justice stéréotypée. Donc ça, on peut assez facilement se dire que ça fait partie du crime imaginaire. Mais en même temps, cet imaginaire, il est alimenté par des détails que donnent les personnes. Alors les détails, ça peut être des lieux. Donc moi, on est retourné sur des lieux présumés de sabbat. On a des détails sur les gens, on a des détails sur les complices, puisque comme l'idée, c'est une secte diabolique, on fait avouer des complices. Donc là, on a des informations. Après, c'est compliqué. Par exemple, un des procès qu'on a étudié, c'est un procès d'un monsieur qui s'appelait Jacquet Durier, qui est médecin, qui est accusé d'un meurtre. Et très rapidement, la justice se désintéresse du meurtre, mais se dit, au fond, est-ce que ce meurtre n'est pas lié à de la sorcellerie ? Parce qu'on pense qu'il a empoisonné quelqu'un avec une poudre magique, démoniaque. Alors, la poudre, on peut l'exclure. Mais est-ce qu'il y a eu meurtre ou pas ? Ça, on ne sait pas. Donc, c'est possible que ce soit un vrai meurtrier, mais qui est accusé pour sorcellerie. Après, ce qui est intéressant comme historien ou comme réalisateur sur quelque chose d'historique, ce qui est intéressant, c'est qu'eux ne s'intéressent pas du tout au meurtre. Ce qui nous intéresserait, nous, aujourd'hui. Pourquoi, comment ça s'est passé. Mais ils parlent très vite dans le diabolique. Et ça, c'est intéressant. Et ça se raconte, au fond, de se dire qu'au fond, qu'il y ait eu meurtre ou pas, ce n'est pas si important pour l'époque. Et puis après, alors il y a des choses intéressantes où on sent que les greffiers qui notent de manière assez scrupuleuse les aveux laissent passer des choses. Par exemple, il y a un moment donné, il y a un sorcier, il est torturé et il avoue, à un moment donné, il dit « je dirai tout ce que vous voudrez, j'ai mangé des enfants, j'ai tué des enfants ». Et ça, c'est assez émouvant au fond parce que le greffier n'a pas pu inventer cela. Donc tout d'un coup, la personne, on peut imaginer, qui est torturée, qui est à bout, et puis qui dit « mais dites-moi ce que je dois avouer ». Et au fond, on a la trace authentique, sans doute, véridique, on ne saura jamais, mais de quelque chose qu'il a vraiment dit et qui en plus invalide complètement le système judiciaire de l'époque.
Et est-ce qu'on peut rappeler du coup qui sont ces sorciers et ces sorcières ? Parce qu'au départ, il y a aussi beaucoup de condamnations d'hommes sorciers. Et que font-ils exactement ?
Qui sont les sorcières et les sorciers ? Il n'y a pas de typologie. Il y a à peu près 2/3 de femmes, 3/4 de femmes. En Suisse, c'est plutôt 2/3 et 1/3 d'hommes. Mais les tout premiers procès de sorcellerie, c'est principalement des hommes. Et ensuite, la chasse se féminise. Il y a même des enfants qui sont inquiétés pour sorcellerie. Ensuite, au niveau milieu social, on a des pauvres, on a des mendiants. Il y a un jeune sorcier français de 12 ans qui est un mendiant qui se fait arrêter à Fribourg, qui se fait décapiter. Donc on a des gens de la marge, mais on a aussi des puissants. Un des procès qu'on a étudié, c'est le procès d'une famille qui vient de Picardie. Donc on les appelle les Picards. Et ils sont dans ce village de Don Martin et ils réussissent. Et donc, c'est plutôt des gens aisés. Et la population se dit, mais est-ce que ça cache pas quelque chose, ça ? Et donc, c'est une forme de marginalité, on peut dire. C'est des gens riches et on se méfie au fond de leur richesse. Il y a un peu tous les niveaux sociaux. À Fribourg, il y a même un juge qui est accusé à un moment d'être sorcier. Parce qu'il est tellement zélé, les gens se disent, mais est-ce qu'il n'y aurait pas le diable derrière? Au fond, c'est toujours ça l'idée que se disent les gens, mais il y a un truc qui cloche. Est-ce que ce n'est pas le diable derrière? Est-ce que ce n'est pas des puissances occultes? C'est un raisonnement qu'on fait aujourd'hui encore dans les théories du complot. C'est exactement comme ça que ça se passe. C'est qu'on a cette idée que c'est louche. À l'époque, on mettait le mot diable, on se le représentait, il existait. Mais au fond, le mécanisme, il est un peu le même.
Vous l'avez rappelé, on l'apprend dans le film, il y a quasiment autant d'hommes que de femmes qui sont accusés de sorcellerie. Donc il y a aussi des sorciers. Comment ça se fait que dans l'histoire, on n'ait retenu que la dénomination de sorcière au final?
Ce qui est très intéressant dans cette histoire de la chasse aux sorcières, c'est qu'elle se déroule sur 250 ans. Donc imaginez un phénomène qui se terminerait aujourd'hui et qui a commencé au moment de la Révolution française ou même avant. Donc on est vraiment sur une très longue période. Et dans cette longue période, les choses changent. Donc effectivement, au début, on a plutôt des sorciers, des accusations d'hommes. En fait, on accuse une secte, donc c'est mixte, on va dire. C'est pas genré, on définit pas. Et puis assez rapidement quand même, avec un livre qui s'appelle « Le marteau des sorcières » qui est publié à la fin du 15e siècle, qui va bénéficier de la technologie de l'imprimerie, donc qui va être diffusé à plus de 30 000 exemplaires, ce qui est énorme pour l'époque. C'est un véritable, c'est un pamphlet contre les femmes. Et donc, progressivement, la chasse aux sorcières et aux sorciers va se concentrer sur les femmes, ce qui fait que les dernières personnes à être exécutées sont toutes des femmes. Ensuite, ce qui se passe, c'est que les procès s'arrêtent. Le crime de sorcellerie n'est plus considéré comme un crime, mais l'imaginaire qui a été construit pendant ces 250 ans reste. C'est pour ça qu'on a encore, on voit encore des Halloween, on voit encore des femmes avec le chapeau, avec le balai. Tout ça, ça vient de la chasse aux sorcières. Et donc, comme cet imaginaire, au fond, se construit à partir de la fin de la chasse aux sorcières, après part dans la fiction, arrivera jusqu'au cinéma. Et donc, effectivement, cet imaginaire se nourrit plutôt des dernières chasses aux sorcières et cette figure féminine, au fond, de la sorcière reste et on n'a plus la figure masculine disparaît. Et puis ensuite, il y a tout ce phénomène de réappropriation de la figure de la sorcière, d'abord aux États-Unis, puis en Europe, qui est, voilà, où on fait de la sorcière une héroïne. Et ça, c'est le fait de mouvements féministes, puis écoféministes, qui se réapproprient cette figure-là. C'est ce qui reste aujourd'hui.
À un moment donné, il y a une historienne dans votre film qui dit que c'est très intéressant parce que ces procès et cette chasse aux sorcières, en fait, c'était un reflet de la vie du village, de ce qui se passait dans le village. Et donc, on pouvait se servir aussi des accusations pour condamner à mort quelqu'un qu'on n'aimait pas, pour des conflits de terrain, d'héritage. Il y avait beaucoup de procès qui étaient déclenchés parce qu'on avait des suspicions, parce que notre vache ne donnait plus de lait alors que la vache du voisin elle en donnait. La météo était mauvaise, enfin tout était bon pour accuser quelqu'un.
C'est le phénomène du bouc émissaire. Oui. C'est-à-dire que la sorcière et le sorcier représentent le mal. Ce qui est intéressant et ce qu'on a essayé de faire dans ce film, c'est éviter d'être dans le moralisme. Parce que maintenant qu'on connaît la fin de l'histoire, qu'on sait que c'était un crime imaginaire, c'est facile de dire... Au fond, c'était un peu des barbares, c'était les Moyen-Âge et tout ça, puis nous, on ne l'est plus aujourd'hui. Nous, on a vraiment souhaité être dans une démarche qui est de raconter les deux côtés, c'est-à-dire que oui, cette justice était terrible, oui, l'usage de la torture permettait de faire avouer n'importe quoi, oui, il y avait cet imaginaire complètement construit, notamment par les théologiens, mais aussi les juristes. Mais il y avait la peur des gens. La chasse sorcière, elle n'aurait jamais duré 250 ans s'il n'y avait pas cette peur et cette haine, vraiment. Et au fond, quand on lit les procès, il faut imaginer un petit village où tout d'un coup, une rumeur monte, la vie est difficile, et tout d'un coup, il y a une cible. C'est pourquoi cette cible-là, c'est difficile, il n'y a souvent rien de tangible, mais ça peut être la cible, c'est peut-être une femme ou un homme dont l'oncle ou la grand-mère ou le grand-père était sorcier. Parce qu'il y a un peu cette idée du gène du sorcier. Ensuite, des fois ça se calme, mais si tout d'un coup il y a procès, il y a torture, on fait avouer à la personne qui est sorcière toute une partie des méfaits de ce qui s'est passé. Donc imaginez votre voisine qui tout d'un coup avoue que, au fond, l'avalanche de neige qui a eu lieu il y a 3 ans, c'était elle, que le bébé du voisin, c'était elle, que la vache, il y a 2 mois, c'était elle. Et donc, tout d'un coup, ces villageois se rendent compte qu'au sein de la communauté, pendant des années, il y avait des personnes qui étaient fondamentalement mauvaises, maléfiques, qui détruisaient les récoltes. Et donc, on peut imaginer l'effroi que ressentaient les paysans, les paysannes ou les villageois en disant ben, « Cette personne que j'ai côtoyée, que j'ai croisée, en fait, elle était de l'autre côté de la force, on peut dire. Elle était du côté du mal. » Et donc, on peut imaginer l'effroi et on peut imaginer la haine en disant ben, « On lui a fait confiance. Elle était l'une d'entre nous. » Et tout d'un coup, on se rend compte que pendant des années, en fait, c'était une sorcière. Et donc, ça explique aussi cette haine, cette colère de la population qui faisait qu'il y avait au fond une adhésion de tout le monde, sauf de la sorcière et du sorcier, qui sont que des gens innocents, à ce système-là. Et donc, effectivement, ça permettait aussi de régler toutes les questions de voisinage, les conflits. Enfin, tout était réinterprété. Au fond, il y a une sorte de réinterprétation magique de l'histoire.
Je trouve qu'il y a 2 points intéressants dans le film pour rebondir par rapport à ça. On se rend compte qu'en fait, là où il y a le plus de chasse aux sorcières, c'est pendant les périodes de crise, et c'est une manière d'acheter la paix sociale, en fait. Et il y a aussi, en cette période de fin de Moyen-Âge, où c'est une manière aussi pour l'Église de mettre en garde les gens qui s'éloigneraient de la foi chrétienne, et de réasseoir un peu son autorité. Et du coup, tout le long du film, il y a une question qui me restait en tête, c'est de me dire, est-ce que les élites et les juges, les gens qui jugeaient, qui condamnaient ces gens pour sorcellerie, est-ce qu'ils y croyaient eux-mêmes, ou est-ce qu'ils savaient très bien qu'en fait c'était des boucs émissaires et qu'il y avait un intérêt plus grand derrière ?
Ça, c'est la grande question. Évidemment qu'on n'est pas dans la tête des gens de l'époque, c'est très difficile de répondre à cette question. Moi, je pense qu'ils y croyaient. Je pense que tout le monde y croyait. Je pense que même les gens qui étaient accusés d'être des sorcières et des sorciers y croyaient, simplement qu'ils disaient « Moi, j'en suis pas, évidemment. » Mais cet imaginaire est tellement fort, il est tellement présent, il permet tellement d'expliquer un certain nombre de choses qu'on y croit. Mais je ne sais pas si on parle de l'antisémitisme au 19e et au 20e siècle. Moi, j'ai vu des affiches électorales en France, par exemple. C'est au antisémitisme où on présente le juif comme une personne qui est radine, qui a de l'argent, qui fait partie d'une sorte de complot, de conspiration mondiale. Les gens y croyaient. C'est pas noir ou blanc. Il y a des gens qui avaient des doutes, évidemment. Ceux qui l'exprimaient trop fort étaient eux-mêmes accusés d'être sorciers. Donc il y avait aussi un climat de terreur qui faisait que la pensée pouvait être paralysée par ça. Après, est-ce qu'il y a eu des cyniques qui avaient compris comment le système fonctionnait et qui s'en sont servis ? C'est possible aussi. Je pense qu'il n'y a pas de réponse claire à cette question. Un des témoignages les plus émouvants que j'ai lus, c'est un jésuite qui s'appelle Friedrich Speer. Ça se passe en Allemagne, hein, ça ne se passe pas en Suisse. Qui, au moment de la grande chasse aux sorcières en Allemagne, le sud de l'Allemagne a eu des chasses aux sorcières terribles aussi. Il était aumônier. Confesseur des sorcières et des sorciers. Donc il faisait partie du dispositif, mais c'était pas un juge, c'était pas un bourreau, c'était pas un piqueur, parce qu'on piquait les gens à l'époque, mais il allait voir les sorcières et les sorciers dans leurs cellules et il les accompagnait comme un confesseur accompagne ces personnes au moment de la mort. Et au fond, il a fait ça, on pense qu'il a rencontré à peu près 200 hommes et femmes qui étaient torturés et ensuite exécutés. Et lui se rend compte du système. Il voit les gens détruits par la torture. Il écrit un livre de manière anonyme, parce qu'il risquait sa vie, où il déconstruit complètement le système. Et il dit par exemple, une sorcière qui a une mauvaise vie, c'est normal parce que les sorcières sont de mauvaise vie. Mais il dit, une sorcière qui a une réputation de bonne vie, en fait, c'est le diable qui induit les gens en erreur en faisant croire qu'elle a une bonne vie alors qu'elle en a une mauvaise. Donc il déconstruit le système totalement totalitaire et fermé de la chasse aux sorcières. Donc lui, il y en a très peu, mais lui, sur le moment, en contact vraiment avec cette réalité, lui comprend et déconstruit le système. C'est un livre qu'on peut acheter. Je l'ai acheté, vous pouvez le lire. Il y a 51 chapitres qui sont des doutes. Le chapitre 1, c'est doute 1. Chapitre 2, c'est doute 2. Et il arrive à la fin de son livre en disant « Les sorcières et les sorciers n'existent pas ». Là, la chasse aux sorcières en Suisse, c'est des petits villages. La plupart des gens sont illettrés. Il n'y a pas de contre-discours. Mais c'est difficile de savoir s'ils y croyaient vraiment ou pas.
Et pour réaliser votre film, du coup, vous êtes retourné sur les lieux de ces procès, de ces chasses aux sorcières. Vous avez eu recours aux témoignages et au travail d'historiens. Et il y a aussi de l'animation qui a été superposée à ces lieux actuels de villages, de la ruralité de la Suisse, les montagnes, les forêts, les glaciers aussi. Et on comprend très bien du coup le climat dans lequel pouvaient vivre ces gens, parce que c'est dit aussi dans le film, il y a eu beaucoup moins de procès à Londres et à Paris que dans des petits villages reculés en Suisse.
Oui, la chasse aux sorcières, vous le disiez tout à l'heure, brûler une sorcière, c'est rétablir la paix sociale. Et donc, effectivement, c'est dans des petites communautés où il y a ces moments de crise, où il y a ces moments de tension, de rumeur. Et puis, brûler une sorcière, c'est rétablir la paix sociale. L'animation aussi, c'était quelque chose de très important, parce que faire quelque chose en costume, c'était absurde. On n'a pas les moyens et ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, faire un vrai faux bûcher ou un vrai faux sabbat, enfin, ce serait totalement ridicule. Donc on a essayé, à travers ces animations, de dire le côté imaginaire. Il y a une scène, par exemple, où on voit un sabbat. Il fallait montrer que c'est imaginaire, mais que les gens y croyaient. Donc il fallait quelque chose de suffisamment réaliste pour qu'on comprenne le contenu des aveux et de suffisamment décalé par rapport au réel pour qu'on se rende compte que c'est imaginaire. Et ça, c'était en termes de réalisation, c'était notre gros défi, c'est de poser des images là-dessus, parce que les images d'époque ne sont pas très parlantes, elles ne font pas peur, elles sont un peu pédagogiques, didactiques, comme ça. Ou alors il faut aller chez les peintres hollandais, à la Bush, qui montrent des sorcières horribles, mais c'était un peu bizarre de mettre des images de peinture hollandaise pour parler de quelque chose qui s'était fait en Suisse. Donc le gros défi, en fait, c'était de raconter la haine, la peur, la violence, sans faire du premier degré, et en disant cette dimension imaginaire. Et ça, c'est à travers les animations, ouais.
C'est bientôt la fin de cette interview. On a une dernière question à vous poser. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce film et pour la suite?
Ce qu'on peut me souhaiter pour ce film, bah, c'est qu'il gagne ici, puisqu'on est en compétition. Donc, évidemment que ça nous ferait très plaisir. Pour la suite, bah, j'ai fait ce film, et puis en même temps, j'ai repris cette matière et j'en ai fait un podcast audio. Donc ça, c'était aussi intéressant de pouvoir décliner au fond cette histoire de manière différente. Ce podcast s'appelle « Au terrible temps des sorcières ». On peut l'écouter, le télécharger. Et puis pour la suite, ben, je continue à m'intéresser à cette face sombre de la Suisse, parce que la Suisse, on a cette image de petit pays tranquille, riche, qui ne correspond pas à la réalité sociale aujourd'hui, ou pas entièrement, mais qui ne correspond pas non plus à son histoire. Et au fond, on a décidé, avec la production de la radio-télévision suisse, qui a coproduit le film et qui a produit le podcast, de continuer dans cette veine-là. Et là, je suis en train de travailler sur les relations entre la Suisse ou les Suisses et l'esclavage, la traite négrière. Donc, vous pouvez me souhaiter bonne chance.
Eh bien, c'est fait. Merci beaucoup, en tout cas,
merci
pour cet
vous.
Entretien.